France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000 et des réactions sur les réseaux sociaux, Hélène Roussel.
Ah ouais, on peut aspirer les contenus des ordis portables ou des smartphones, dites-vous. Alors un spécialiste des services spéciaux qui nous dit qu'il est plus prudent de communiquer sur des lignes fixes. Hashtag paranoïa ce matin sur les réseaux. Par peur des écoutes, monsieur Hervois, vous avez dit au début du mois avoir abandonné votre téléphone portable. C'est ce que nous rappelle Thomas Gerbet. Pourtant, c'est quoi, c'est ce que je vois là sur la table.
Donc... Comme quoi, il ne faut pas croire ce qu'on met dans les journaux toujours.
Voilà. Okay.
Ah, ça a été écrit dans un journal.
Oui, ça a été écrit dans un journal parce que je discutais sur le fait qu'il fallait effectivement avoir une hygiène en matière de données informatiques et que sans doute que la meilleure des protections, c'est de faire attention à ce que l'on dit et ce que l'on écrit. Ça ne vaut pas que dans le domaine de l'espionnage, ça vaut sur la protection. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils sont tellement intrusifs qu'il faut avoir conscience que quand on fait don de nos données de connexion, il ne faut pas en plus après demander aux législateurs de protéger la vie privée.
La question est tout de même intéressante, même si votre réponse indique que l'information de départ était fausse. Mais est-ce que ce que vous avez appris lors de votre mission, de votre enquête, a modifié certains de vos comportements de vie quotidienne, Jean-Jacques Hervas ?
Oui, sans doute, dans la relation justement que le Parlement tisse avec les services de renseignement, puisque nous avons besoin de confiance, mais aussi de contrôle, parce que les outils sont-elles aujourd'hui qu'il doit y avoir des certitudes pour les citoyens. On ne peut pas imaginer que l'on peut ainsi porter atteinte aux libertés. Et donc, dans la relation que le Parlement construit avec les services de renseignement, nous avons une certaine protection des éléments que nous échangeons. Par exemple, il y a une salle à l'Assemblée nationale où nous nous réunissons qui n'est dédiée qu'à la commission du renseignement, qui est une salle qui est sourde, c'est-à-dire qu'elle est isolée de la totalité du bâtiment, qu'elle n'a aucune connexion informatique, parce que quand j'auditionne le directeur de la DGSE, je veux être certain qu'il me dit la vérité et qu'il sait qu'il ne peut en parler et qui peut parler en toute quiétude.
Il n'y a pas une once de paranoïa, pour reprendre le mot-clé,
non,
le
c'est
hashtag de
la protection,
de notre...
c'est même un principe constitutionnel qui s'appelle la précaution.
Les grandes oreilles chinoises, c'était à la une de l'Obs il y a 2 semaines, ce centre d'écoute avec d'immenses paraboles installées à Chevilly-Larue. Pourquoi faire ?
Pourquoi faire ? Une antenne ne dit rien. Une antenne peut écouter et une antenne peut expédier des informations. J'ai lu dans cet article beaucoup de choses que je ne crois pas justes. Notamment le fait que l'État aurait donné son autorisation. Si je connais à peu près le droit dans ce domaine, il s'agit d'un territoire qui est en extraterritorialité française. C'est-à-dire que nous sommes en territoire chinois.
On a vu des reportages où des reporters se présentaient. C'était l'accueil de l'ambassade chinoise, oui, une annexe de l'ambassade chinoise.
Oui, mais ce qui veut dire que le droit français ne s'applique pas dans ce territoire-là, de cette commune-là. Ce qui veut dire que s'ils veulent construire une antenne, il n'y a aucune autorisation à demander à personne.
Est-ce que si les antennes sont installées en France, ça ne préjuge pas de la cible, c'est-à-dire d'écoute réalisée auprès de conversations françaises ?
En aucune façon. Ce n'est pas impossible, mais en aucune façon. Mais vous savez, les antennes qu'il y a sur le toit de l'ambassade des États-Unis sont au moins aussi intéressantes que celles de Chevilly-Larue.
Blaise nous appelle de Seine-et-Marne au Standard d'Inter. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci de prendre ma question.
Nous vous écoutons.
Très rapide. Je voulais savoir dans quelle mesure le secret des affaires dont parle M. Hervoas et les amendements qui va mettre en route vont être compatibles avec l'information à donner aux salariés sur des sujets importants et notamment, par exemple, la vente des entreprises.
Merci pour cette question.
Évidemment que ça sera compatible, d'abord parce qu'il va y avoir une directive européenne qui va protéger une partie du secret des affaires et qu'avant de faire la transposition, nous souhaitons avoir des dispositions françaises qui soient compatibles avec notre souci de transparence, notamment vis-à-vis des salariés. Par contre, il y a quelque chose que je combats, qui est le fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont obligées de publier un certain nombre d'informations de manière légale. Ce que ne font pas les Anglais ou ce que ne font pas les Allemands. Je propose qu'on réduise ce qui est de la publicité des informations légales dont doivent disposer le monde entier.
Régis nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Régis. Allô, allô. Est-ce que Régis est en ligne? Non, il n'est pas en ligne. C'est une question sur le club. On va le retrouver dans une minute. Et Thomas Legrand,
Thomas
d'ici là.
Thomas de Paris. Vous parlez de protection, mais est-ce que vous souhaitez que la France espionne plus? Est-ce qu'on devrait, on devrait espionner nos voisins?
Rendre l'appareil aux Américains.
Espionner les entreprises. Oui, mais le fait-on assez?
Vous savez,
le fait-on bien?
Il ne faut pas avoir de soumission à la technique. Il n'y a pas de maître, la technique ne décide rien. Ce que nous a appris Snowden, par
exemple. Est-ce qu'on veut espionner ? Qu'on a cet état d'esprit-là ?
Attendez, Thomas.
Ce que nous a appris Snowden, c'est que les Américains nous espionnent. C'est sans doute pour ça que Snowden a fait moins de bruit en France qu'en Allemagne. C'est parce que les Américains nous espionnent, c'est pas vraiment une nouveauté. Ce que nous a appris Snowden, c'est qu'il faut être souverain dans nos manières d'agir dans le domaine du renseignement. Et de ce point de vue, la France, depuis des années, a construit une politique souveraine de renseignement. Dans le domaine économique, qui est le sujet que nous traitons dans le rapport, oui, il faut être plus offensif. Oui, il faut que le renseignement serve à l'appui de négociations de contrats internationaux. Oui, il faut que le renseignement nous aide dans les négociations européennes.
Patrick, au Standard Inter, est-ce que Patrick est en ligne ? Non. Alors, avons-nous Régis ? Oui ? Ou pas ?
Il y a tas de gens qui nous écoutent, visiblement.
Oui, il y a tas de gens qui nous écoutent, mais qui n'arrivent pas jusqu'au bout de la régie. Allô, qui est en ligne ?
Oui, Régis,
bonjour. Bonjour Régis, c'est à vous.
Oui, je voulais dire que 82% des entreprises d'Internet sont américaines. En France, il n'y en a que 2%. En janvier 2015, Microsoft va mettre en place Windows 10... Qui sera un exemple de cloud, à savoir que toutes les informations seront, toutes les informations personnelles des entreprises et des personnes seront sur leur ordinateur et non plus sur nos disques durs. On pourra en disposer de quelque endroit qu'on soit. Ce sera pratique. Mais à l'inverse, quand ils voudront faire pression, il leur suffira de couper la communication. Nous n'aurons plus accès à notre mémoire, à notre histoire. Et ça sera donc une coupure, une erreur fatale, une coupure nette du réseau d'informations auquel les personnes et les entreprises sont liées normalement.
Merci pour cette question sur le cloud qui suscite effectivement un certain nombre d'inquiétudes. Jean-Jacques Urvoas, crainte justifiée ?
Par principe, il faut toujours imaginer le pire. Tous ces débats nous amènent à nous poser la question de la propriété de nos données. C'est sans doute à mes yeux l'essentiel. On défend de plus en plus l'idée qu'il faut être propriétaire de ces données, qui est une idée que je combats. Parce que si vous êtes propriétaire de votre donnée, ça veut dire que vous pouvez la vendre. Et donc vous pouvez commercialiser la donnée. Et je crois qu'il ne faut pas pouvoir commercialiser les données. Si je veux faire un tout petit peu de droit, le Conseil d'État vient de suggérer une idée, alors qui a un nom, un jargon incompréhensible presque, qui s'appelle l'autodétermination informationnelle. C'est-à-dire que ça serait quelque chose, les données de connexion ne seraient pas commercialisables. Parce que tout est là dans les stratégies des géants de l'Internet. C'est que tout est gratuit chez eux parce que vous êtes le produit. Vous êtes le produit. Et donc, vous ne pouvez pas aller nu sur une autoroute commercialisée d'Internet et après vous étonner qu'il y ait des atteintes à votre vie privée. Donc, les clouds, évidemment que c'est une difficulté. Microsoft, le GAFA américain, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et puis les autres, ils sont aujourd'hui beaucoup plus dangereux que les États. Les entreprises chinoises extrêmement puissantes dans le domaine de l'Internet, aujourd'hui, elles ont sans doute des entraves qui sont liées à la possession par l'État chinois. Le jour où elles auront dépassé la capacité financière de l'État chinois, qui va les contrôler ?
Très bien. Les réseaux sociaux, Hélène Roussel.
Oui, toujours sur le smartphone, on peut appliquer ça aussi, j'imagine, à ce que vous venez de dire, à Facebook et tout ça. Possible de protéger son smartphone ? Pose la question Vincent Corjon. Et si oui, comment ?
D'abord, toutes les marques ne se valent pas. Il y en a qui sont plus ouvertes que d'autres. Celle que nous utilisons le plus souvent, c'est celle qui est sans doute la plus ouverte au monde. C'est justement celle qui permet d'avoir accès à la totalité de vos informations par la création d'une bulle GSM. Mais il y a aussi des outils que l'on peut protéger. Vous imaginez bien que le président de la République, quand il se sert de son téléphone est largement protégé parce qu'il y a des données, de la cryptologie. D'ailleurs, là aussi, Snowden nous a fait beaucoup de mal parce qu'en prétendant défendre les libertés publiques, il a aussi révélé la capacité technique des services de renseignement, dont nos ennemis, les groupes terroristes notamment, ont rehaussé leur capacité de protection. Et donc nous avons momentanément reculé dans la lutte contre le terrorisme parce que les données de collection sont mieux cryptées.
Vous êtes sûr de ça ? C'est la faute à Snowden ?
Non, je ne dis pas que c'est la faute à Snowden, je dis que c'est le paradoxe de Snowden. C'est-à-dire, je ne l'accuse pas d'avoir été il n'a pas porté atteinte aux libertés, il a voulu dévoiler des choses qui l'ont heurté. Mais ce faisant, le paradoxe, c'est qu'il a aussi informer les groupes terroristes, par exemple dans la bande sahélo-saharienne, des moyens qui étaient déployés pour les écouter.
Patrick est en ligne de Blois. Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Nous vous écoutons.
Voilà. J'ai été obligé obligé de couper un moment, donc je ne sais pas si votre invité en a parlé, mais on parle beaucoup d'espionnage, comment dirais-je, économique, mais il y a aussi l'espionnage politique, puisque le système Regime, l'espion Regime qui avait été mis au point par les Anglais avec l'aide des Canadiens au service des Américains, avait pour mission d'écouter les téléphones portables et beaucoup plus tous les ordinateurs et tous les systèmes de communication de Bruxelles, enfin de nos alliés, qui permettait aux Américains, lors de négociations ou politiques ou économiques, de savoir quelles étaient nos marges de négociation. Donc, ils partaient avec des pions d'avance.
L'espionnage, c'est ça. C'est-à-dire chercher ce que l'on veut cacher. C'est pas nouveau. Vous savez, ça, si l'espionnage est d'origine militaire, c'est parce que les premières tentatives étaient de connaître les plans de l'adversaire. C'est d'ailleurs pour ça que la DGSE continue à être un service qui dépend du ministère de la Défense et que sur les 6 services de renseignement qu'il y a en France, 3 relèvent du ministère de la Défense. Mais justement, ce que nous essayons de faire, y compris en vous remerciant d'avoir permis de le faire, c'est de dire que l'espionnage aujourd'hui, il n'est pas que dans le domaine militaire et qu'il porte beaucoup plus atteinte à la France dans le domaine économique et que là-dessus, les chefs d'entreprise ne sont pas suffisamment conscients du risque qui pèse sur eux.
Benjamin en ligne de Paris, bonjour.
Bonjour. Bon, déjà, je doute que les Américains s'intéressent vraiment au contenu de mon smartphone.
On ne sait jamais, Benjamin.
La question, c'est parmi les nombreuses promesses pas tenues du PS, il y avait celle, monsieur le député de Bretagne, de lever le secret défense sur l'affaire du Bugalet de Brest et l'éventuel sous-marin britannique qui aurait participé à son échouage. Où en êtes-vous, vous qui êtes habilité secret défense ou du Bugalet de Brest, pour toutes ces familles qui sont dans le deuil, dans la tristesse et dans le chagrin?
Merci.
Abandonné par l'État.
Merci pour cette question, Benjamin.
L'habilitation au secret défense qui découle du fait que je préside pour cette année la délégation parlementaire au renseignement, puisque l'année prochaine ça sera Jean-Pierre Raffarin, puisque c'est une fonction qui tourne tous les ans entre les 8 membres de la commission, ne me donne pas accès à toutes les informations par principe. Il faut que j'aille les chercher. Et dans le cadre qui est posé, qui est le Bugalet de Brest, que nous connaissons bien évidemment dans le Finistère, Jean-Yves Le Drian a dit aux familles et aux avocats des familles qu'il avait levé toutes les incertitudes qui pesaient et toutes les questions qui étaient posées. Les réponses qui ont été apportées peut-être ne satisfont pas les familles, on peut le comprendre, mais Jean-Yves Le Drian a dit avoir fait tout ce qu'il pouvait faire.
Une question politique pour finir, Thomas Legrand.
Oui, vous êtes un proche de Manuel Valls.
Qui est en Bretagne aujourd'hui.
Qui est en Bretagne aujourd'hui.
Ça ne nous a pas échappé.
Voilà. Et pourtant, vous êtes plutôt contre le travail du dimanche.
Mais je ne suis pas contre le travail du dimanche.
Parce que vous êtes breton.
Je suis favorable au fait que l'on considère que le dimanche doit être réservé à autre chose qu'à se promener dans les galeries commerciales. Et que la loi qui existe est satisfaisante. Si on veut l'élargir, tant mieux. Mais je ne crois pas à une guerre de religion sur cette question. Parce que je ne crois pas qu'il y ait d'aspiration partout. La France n'est pas les Champs-Élysées. La Bretagne, les Chinois dont nous avons parlé aujourd'hui, les Chinois qui viennent à Paris dans les grandes artères commerciales, quand ils viennent dans le Finistère, c'est pour investir dans le lait en poudre, parce qu'ils ont besoin dans leur domaine et dans leur marché de ce produit que nous faisons. Donc, il ne faut pas faire de la France une situation uniforme, partout. Nous n'avons pas nécessairement de besoin, on peut peut-être élargir un peu plus, mais je crois que de toute façon, il n'y aura pas de débat à l'Assemblée nationale.
C'est pour ça que c'est les maires c'est qui sont habilités de 5 à 12.
Et en l'occurrence, le maire de Quimper et le maire de Brest ont dit que pour le moment, ils étaient satisfaits. Mais si on veut permettre à d'autres, tant mieux. Je ne veux pas imposer à d'autres ce dont je n'ai pas besoin, moi.
Un mot au breton que vous êtes, puisque le Parlement a adopté hier de façon définitive, je crois,
oui,
la carte
de la dernière lecture.
La carte des 13 futures régions, des grandes régions. Manuel Valls, ce matin, dans une interview à Ouest France, dit, vous voyez, on a tenu compte, pour modifier cette carte, des demandes locales. Alors effectivement, les deux Normandies sont une et peut-être dans le futur indivisible. Pour la Bretagne, non, pas de changement.
Bouge pas.
Et là, alors, ça écoutez, suscite encore des récriminations.
Comme toujours, c'est comme la langue d'Ésope, c'est pas la pire et la meilleure des choses. C'est bien, la Bretagne reste à 4 départements, elle a failli se dissoudre dans un Grand Ouest mou, et je suis breton, je ne suis pas ouessin.
Oui, donc, du mais coup, la Bretagne à 5 départements, c'est encore une revendication.
Donc, je me félicite que la Bretagne soit restée à 4. Je regrette que le droit d'option que nous avons voté ne soit peut-être pas aussi souple que je l'aurais souhaité. J'ai voté les amendements à l'Assemblée pour qu'il soit plus souple, mais j'ai été minoritaire et comme je suis un démocrate, je respecte la majorité.
Jean-Jacques Urvoas, merci d'être venu ce matin au micro de France Inter.